Alors on retrouve nos deux éditorialistes pour leur billet du jour et on commence comme d'habitude par un billet politique qui est aujourd'hui ton fait, Maëlys. Ah.
Alors moi aujourd'hui je ne vais pas vous parler du potentiel futur nom de l'UMP, légèrement pompé sur leurs collègues de droite d'outre-Atlantique, histoire de bien montrer qu'eux aussi ils sont bien à droite et droit dans leurs bottes de cow-boy. Je ne vais pas vous parler non plus de Dallas au pays des fascistes, ou le pseudo-parricide politique d'une fille envers son père qui omnubile les médias depuis quelques semaines.
Tu vas nous parler de quoi du coup?
Bon, parmi toutes ces bonnes nouvelles politiques qui donnent foi en l'avenir, c'est le moins qu'on puisse dire, je vais aussi vous épargner l'Assemblée nationale en théorie de gauche, qui nous avons élue et qui a voté avec enthousiasme hier l'espionnage massif de nos conversations. Donc Clément nous a déjà bien démonté le moral avec ça tout à l'heure. Merci Clément. Non, ce qui a retenu mon attention cette semaine, Clément, c'est la tribune publiée hier dans Libération intitulée « Bas les pattes » sur le sexisme des hommes politiques envers les femmes journalistes. Ça a l'air d'être un petit pavé dans la mare comme ça, ce texte, mais le fait même que plus des deux tiers des signataires aient demandé à conserver l'anonymat pour ne pas avoir à subir de pression de la part des hommes politiques qui se reconnaîtraient dans le détail des anecdotes, donc qui sont très édifiantes au passage.
Ça
les
fait
anecdotes.
Froid dans le dos.
Donc je les cite pas, mais elles ont été abondamment relayées hier par les médias. Pour ne pas non plus avoir d'ennuis avec leur direction, qui on peut composer majoritairement d'hommes, on peut le supposer. Le sexisme chez les femmes journalistes, tout comme le sexisme dont pâtissent les femmes en politique, ce paternalisme lubrique qu'elle pointe du doigt dans la tribune, de nombreuses femmes sont amenées à en faire les frais dans leur vie professionnelle, parfois jusqu'au harcèlement moral. Être obligée de mettre une tenue passe-partout pour éviter les commentaires qui ramèneraient la femme à la robe qu'elle porte et à ignorer ses compétences. Redouter les entretiens professionnels en tête-à-tête avec des hommes politiques pour ne pas se retrouver dans une situation inconfortable, c'est un peu handicapant quand on est une femme journaliste. Bien sûr, hier à l'Assemblée, il y avait de l'ambiance, nous raconte Libération.fr, dans un article intitulé « Après la tribune contre le sexisme, à l'Assemblée, l'Assemblée entre déni et colère ». Bon, la plupart des femmes politiques ont applaudi l'initiative, de même que les hommes essentiellement de gauche. Certains ont quand même réussi à critiquer la démarche des journalistes. Oui, vous comprenez, ce n'est pas du sexisme, c'est de l'humour. Jacques Millard, député UMP des Yvelines, tout fraîchement rentré de Syrie où il s'était entretenu avec Bachar el-Assad, a été particulièrement fulgurant hier. Et l'humour, vous savez ce que c'est l'humour? Ça vous manque, jeunes gens. Donc apprenez l'humour, c'est ça le problème. C'est que véritablement, tout le monde se prend tellement au sérieux que dès qu'on dit une petite chose qui sort un peu de l'ordinaire, ah mon Dieu, il a osé dire ça, ah bah oui, j'ai osé dire ça et je continuerai. Il y a un moment où elle devrait se dire, l'humour prime sur tout, elles ne sont pas capables, c'est leur problème, a-t-il déclaré en parlant des femmes journalistes. Voilà, voilà, bon, il n'en était pas à son premier coup d'essai puisqu'il avait justifié les sifflements adressés à Cécile Duflot quand elle avait porté une robe à fleurs lors de la séance à l'Assemblée nationale.
Oui, il y a 2 ans.
Voilà, c'est ça. Enfin, on peut regarder une femme avec intérêt sans que ce soit du machisme, non? Estimant selon lui que les sifflets rendaient hommage à la beauté de cette femme. Faisons un petit exercice de pensée et remplaçons les femmes journalistes par une autre minorité, les journalistes noirs par exemple. Est-ce qu'on trouverait ça normal qu'ils ne puissent pas signer leur tribune? Non. On serait révoltés, on les encouragerait à porter plainte, on ne dirait pas « les pauvres » d'un air résigné comme ça a été le cas hier avec les femmes journalistes. Est-ce qu'on trouverait ça normal de faire systématiquement des pseudo-blagues fondées sur des stéréotypes éculés en leur présence? Non. De les appeler systématiquement par leur prénom, de leur parler avec condescendance? Non plus. De les ramener, de les réduire sans arrêt à leur couleur de peau alors qu'ils essaient d'exercer de leurs compétences professionnelles? Non plus. Et d'Isabelle Attard, députée du Calvados, nous rappelait toujours dans l'article de Libération.fr la réponse du fameux député Philippe Leray qui avait imité la poule, qu'il avait caqueté quand la députée écologiste Véronique Massonneau avait pris la parole en octobre 2013 à l'Assemblée. Mais je ne suis pas sexiste, voyons. J'ai même des attachés parlementaires filles. Les pseudos traits d'humour ou compliments adressés aux femmes sur leur physique, les regards soi-disant flatteurs, appuyés et prédateurs, ne sont que des moyens parmi d'autres de rappeler un individu de sexe féminin à sa condition de femme, point barre, et de nier ses compétences, ses qualités individuelles. C'est une manière pour le dominant de remettre le dominé à sa place. Oui, le sexisme est un racisme comme un autre. Voilà, autant dire que j'étais un peu énervée hier soir, parce qu'il y en a marre de ces petites remarques outrageantes, intimidantes, qui mettent mal à l'aise, voire qui effraient, dans la rue comme dans les bureaux ou dans les tribunes de l'Assemblée nationale. Non, le machisme n'est pas une fatalité, ce n'est pas le lot commun de toutes les femmes avec lequel il faudrait s'accommoder, comme certains voudraient bien nous le faire croire. Bref, je devais faire une chronique politique, je me suis retrouvée à faire une chronique féministe. Rien que ça, c'est pas normal.
On va quitter la France et on va passer outre-Atlantique. On va voyager avec toi, Céline. Tu nous emmènes aux États-Unis, à Baltimore précisément, une ville de la côte Est qui a été théâtre de violences. Des violences qui en rappellent d'autres.
Oui, alors c'est lundi dernier, le 3 mai, que la maire de Baltimore a déclaré la levée du couvre-feu, instaurée depuis une semaine, suite aux violences et aux émeutes du 27 avril, qui avaient secoué la ville. Tout a commencé en fait par une manifestation de 1000 personnes, rassemblées en hommage à Freddie Gray, un jeune noir américain de 25 ans, mort dans des circonstances suspectes, après son arrestation par la police. Bilan actuel de ces violences, 20 policiers blessés, plus de 206 arrestations et des bâtiments et des véhicules incendiés. Alors les chaînes de télévision américaines ont d'ailleurs montré des images d'une foule furieuse lançant des briques, des bouteilles et des poubelles sur les policiers avant de s'en prendre au mobilier urbain et aux magasins.
Et qu'est-ce qui s'est passé exactement, Céline ?
Eh bien Clément, l'histoire habituelle, malheureusement, celle d'une arrestation d'un jeune homme noir qui tourne mal. Le 19 avril dernier, Freddie Gray est arrêté alors que selon des témoins, il ne faisait absolument rien de répréhensible. Il décède ensuite lors de son transfert au poste de police alors qu'il aurait dû recevoir une aide médicale d'urgence. Une vidéo de l'arrestation montre en effet le jeune homme en train de hurler de douleur, plaqué au sol par les policiers. 80% de sa colonne vertébrale a été sectionnée à la hauteur des cervicales au moment de sa mort. Alors on s'arrête là pour les détails macabres, d'autant plus que le flou entoure encore ce qui s'est réellement passé.
Et ce qui est frappant avec Baltimore, c'est l'impression de répétition de ce genre de situation.
Oui Clément, on a un effet évident d'accumulation et de répétition d'un scénario à peu près identique. Des arrestations qui tournent mal, la violence policière en jeu, la colère de la population noire et la réaction en demi-teinte des autorités, qu'elles soient d'ailleurs locales ou fédérales. D'ailleurs, dans l'affaire de Baltimore, la maire démocrate, Stephanie Rawlings-Blake, a été fortement critiquée pour n'avoir pas pris l'ampleur de la colère. Ce qui est évidemment frappant, c'est qu'on pense aussi au cas de Trayvon Martin en 2012, ou alors à Ferguson en août 2014, et à bien d'autres cas de violences policières avérées, filmées, et à la quasi-impunité de ceux qui les commettent. Quelques chiffres qui font froid dans le dos, Clément. Entre 2003 et 2009, on a dénombré 4800 victimes de violences policières aux États-Unis, dont 32% de Noirs, alors qu'ils ne représentent que 12% de la population, selon des chiffres donnés par Le Monde en août dernier.
Et ce sont des chiffres accablants qu'on retrouve dans le processus judiciaire qui vient après.
Oui, en fait, c'est bien tout le système qui est en cause. Alors ça concerne déjà les contrôles de routine qui peuvent tourner très mal, les policiers américains étant entraînés à ne tolérer aucune entorse à leur autorité, et encore moins de la part des Noirs. Pap Ndiaye, qui est historien spécialiste des États-Unis, parle d'ailleurs dans Libération d'un racisme institutionnel de la police. Les jeunes hommes noirs sont 3 fois plus contrôlés que les autres. On a même inventé un terme pour ça, celui de « driving while black », qui remonte aux années 90 à Boston, c'est-à-dire conduite en état de négritude, pour dénoncer le « racial profiling » des autorités. Alors les tristement célèbres émeutes de Watts en 1965 avaient d'ailleurs été provoquées par l'arrestation d'un conducteur noir. Et ça continue ensuite en une chaîne de répression, osons le terme, qui a été accentuée dans les années 90 sous Bill Clinton. En 1994, une loi met en place le quadrillage des quartiers et l'utilisation des surplus militaires, donc de l'armée, pour la police. Les Noirs américains représentent aussi une plus grande proportion des condamnés à mort. Et un jeune noir sur 10, entre 18 et 25 ans, est en liberté conditionnelle, c'est-à-dire déchu de ses droits civiques. C'est quand même plus que la part des jeunes afro-américains présents dans les universités.
Et donc Obama, premier président noir, a eu son mot à dire, non ? Est-ce qu'on peut observer une évolution depuis son arrivée au pouvoir en 2008 ?
Alors, souvenez-vous, en 2012, il disait de Trayvon Martin « ça aurait pu être moi ». À son arrivée à la Maison Blanche, il a installé un buste de Martin Luther King près du bureau ovale. Et pourtant, le bilan est plus que mitigé. Barack Obama ne veut surtout pas se laisser cataloguer comme un président noir. Et il s'est toujours montré très prudent quant au problème racial. Il n'a pas apporté de changement, en fait, sur le fonctionnement de la police. Et il donne en tout cas le sentiment de commenter plus que d'agir. Pour sa défense, il n'a actuellement pas les mains libre dans le système fédéral américain. Le Congrès est maintenant à majorité républicaine. Mais après tout, il n'a plus rien à perdre puisqu'il ne va plus se représenter. Et à son arrivée au pouvoir, il faut bien dire qu'il incarnait le rêve d'une réconciliation nationale.
Est-ce que ça veut dire que les Noirs, malgré Barack Obama, sont marginalisés politiquement aux États-Unis ?
Eh bien, pas vraiment, Clément. C'est ce qui est peut-être un peu paradoxal à première vue. Depuis la fin du grand mouvement des droits civiques et la disparition de ces grandes figures, certains Afro-Américains se sont lancés avec succès en politique. On peut citer les maires de Cleveland, de Baltimore, justement, d'Atlanta ou de Chicago, ou encore des Noirs présents dans les conseils académiques, des représentants en nombre au Congrès, mais il est vrai encore très peu au Sénat. Il faut en fait faire la part des choses. La population noire américaine n'est plus aussi homogène que dans les années 60. 60. On trouve aujourd'hui une classe moyenne et une classe moyenne inférieure à qui s'adressent les hommes politiques et une couche de l'extrême pauvreté avec très peu d'influence aujourd'hui et donc une couche aussi qui vote très peu. C'est ce quart de la population noire qui est marginalisée aujourd'hui et qui vit dans des quartiers racialement homogènes et extrêmement pauvres, par opposition aux grands quartiers noirs des années 70 qui étaient eux homogènes racialement mais socialement très stratifiés. Alors c'est de là aussi que venait Freddie Gray, élevé par une mère seule, illettré, handicapé, vivant d'indemnisations versées depuis 2008 à la suite de la constatation de la présence de plomb dans leur sang, qui est en fait liée à leurs conditions de vie dans le quartier désindustrialisé de Sandtown, donc à Baltimore.
Et cette marginalisation, elle va continuer ou pas ?
Eh bien, pour l'instant, évidemment, toute la classe politique a les yeux tournés vers Baltimore, et ce d'autant plus que la campagne pour les élections est lancée dans les deux camps. Hillary Clinton a fait à ce sujet d'ailleurs un discours très éclairant qui a été prononcé à l'Université de Columbia avant les émeutes sur les inégalités sociales et raciales. Elle veut ainsi aller plus loin qu'Obama en imposant l'usage de la vidéo embarquée dans les voitures de police, mais sur les principes, elle reste fidèle au président. Du côté démocrate, le seul candidat tant soit peu crédible face à Hillary Clinton, Martin O'Malley, est l'ancien gouverneur du Maryland et aussi l'ancien maire de Baltimore. Aujourd'hui, autant dire qu'il doit faire face aux critiques de son ancienne gestion politique et qu'il apparaît donc comme hautement fragilisé.
Et du côté républicain, qu'est-ce que ça donne ?
Eh bien, les favoris Jeb Bush et Scott Walker se distinguent par leur très grande prudence et une très grande discrétion sur le sujet. Le seul à faire entendre une voix dissonante et franchement polémique, c'est Ted Cruz, sénateur du Texas, qui brigue les voix les plus conservatrices du parti et qui s'en est pris violemment à Obama. Ce dernier a, je cite, « pris des décisions qui ont enflammé les tensions raciales et nous ont divisés au lieu de nous rassembler », selon Ted Cruz. Alors voilà pour les hommes politiques, en espérant maintenant que les 6 policiers poursuivis à Baltimore pour meurtre et violence volontaire, dont d'ailleurs 3 sont afro-américains, ne bénéficient pas d'un non-lieu comme à Ferguson.
Oui, on voit que cette question raciale aux États-Unis, malgré les droits civiques dans les années 60,
continue de hanter le
voilà,
pays. Oui.
Elle est loin d'être résolue, et ce malgré l'élection de Barack Obama à la tête du pays. Et puis plus généralement, il y a quand même une question aux États-Unis, c'est celle des minorités ethniques. Il y a des débats qui se posent aussi sur la place de la communauté latino.
Oui.
On revient sur cela et aussi sur tout le reste des sujets évoqués dans la discussion après un jingle.